La mission de Peychel est terminée en Angleterre. Il va parcourir à présent le monde comme un clochard. Il se souvient tout à coup de la sphère de Primus Tazal, lorsqu'il vivait dans une tribu néandertalienne. Elle indiquait tous les endroits où se trouvent du pétrole, des diamants et de l'or. Il va donc tenter sa chance comme prospecteur. Il offre d'abord sa jolie Bentley à un collectionneur et marche seul sur les routes d'Europe sans se soucier du lendemain. Voici donc sa prochaine aventure intitulée « Peychel et la reine de Mercure ». Peychel cherchait de l'or depuis plusieurs heures pendant que son nouveau compagnon, qu'il appelait Popcorn, tentait d'attraper des mouches sur le bord de la rivière. Soudain, une lumière attira le regard de notre homme dès qu'il vit un petit objet briller intensément au fond de cette eau peu profonde. On aurait dit une boîte métallique qui se déplaçait lentement sur le sable blanc. Au début, le prospecteur crut que celle-ci bougeait à cause du courant. Il changea vite d'avis lorsque cette chose se faufila entre ses grosses bottes noires, tel un poisson argenté. C'était suffisant pour aiguiser sa curiosité naturelle. Il marcha dans l'eau pour suivre cette sorte de canne à sardines, et celle-ci s'amusa à tourner plusieurs fois autour de lui pour l'étourdir. La patience du chercheur d'or descendit dangereusement lorsqu'il tenta d'attraper cette boîte avec son tamis. Lorsqu'il y parvint, après quelques heures, ce fut pour voir l'objet traverser son filet sans aucune difficulté. « Sacré nom d'un chien !» cria le chasseur frustré. « C'était mon seul tamis. »« Mais c'était à toi de ne pas t'en servir pour faire la chasse à ce poisson en métal, » lui répondit sagement Popcorn, qui s'était assis sur le bord de la rivière. « Puis est-ce pour pêcher, chasser ou chercher les pépites d'or que nous sommes ici, mon maître ?» « Tu devrais poursuivre ta chasse aux mouches et me laisser tranquille. Tu me déconcentres, tu comprends ?»« Non, mais si je te dérange, il faut me le dire, par exemple. » Peychel poursuivit sa chasse, tandis que son chien ouvrit la gueule en se disant qu'une mouche finirait bien par se laisser attraper. On ne saurait dire combien de temps durera cette poursuite, mais Peychel finit par hurler d'impatience. « Je vais t'attraper, ou bien mon nom est cochon. » Les heures passèrent, mais notre homme revint à son campement pour reprendre des forces. Il se disait en guerre contre cet objet qui s'amusait à contourner ses stratégies militaires. Popcorn attendit d'avoir son pâté avant de lui dire « Merci, cochon ». Son maître tenta de lui retirer sa bouffe pour le punir de son impolitesse. « Mais c'est toi-même qui as dit que tu t'appellerais cochon, à moins d'attraper cet objet », jappa son compagnon étonné. « Prouve-moi que tu l'as enfin attrapé, si tu veux reprendre ton vrai nom. »« Oserais-tu m'appeler cochon jusqu'au moment où je serai le vainqueur, alors ?»« Sûrement, lui répondit la bête avant de s'attaquer à son pâté. » Peychel se calma en mangeant ses fèves au lard, qui allaient le tenir bruyant toute la nuit. La soirée passa sans que notre entêté détourne son regard de la rivière. Cet objet s'amusa à passer plusieurs fois près du bord pour ensuite s'éloigner en traçant des sillons derrière lui. Finalement, cette étrange boîte lumineuse pratiqua des cercles parfaits sous l'eau avant de disparaître quelque part sous un rocher. Peychel dormit d'un seul œil en attendant l'aurore. C'est évident qu'il y aurait un gagnant et un perdant dans ce petit jeu de poursuite. Notre homme était tout de même persuadé de pouvoir se saisir de cet ovni minuscule dès qu'il sortirait de sa cachette. Il chaussa donc ses grosses bottes et s'introduisit dans la rivière sans faire de bruit. Il sourit en voyant une faible lueur se mouvoir derrière l'étroite fissure d'une grosse pierre qui se trouvait à quelques mètres de la rive. Il plaça ses mains devant le trou et attendit que sorte l'objet. Penché devant ce rocher, notre homme y passa un long moment à attendre que se livre l'ennemi, mais celui-ci passa simplement par une autre sortie avant de poursuivre lentement sa route. Vers midi, l'attaque du traqueur devenit porte-à-fruit, du moins pendant quelques secondes. Il venait de voir la boîte argentée se mouvoir en surface. Il se trouvait si près de lui qu'il fut en mesure de l'attraper en criant de joie. Un vent chaud et violent lui pinça aussitôt les mains avant de s'en échapper. Puis, vers les 2 heures, une autre saisie de l'objet valut une prouesse acrobatique à notre pauvre Peychel. La force de l'appareil souleva d'abord le chercheur d'or à plusieurs mètres dans les airs avant de projeter l'héroïque voyageur vers la grève. On aurait dit un homme volant non identifié qui ferait un atterrissage spectaculaire dans un bosquet. Cela aurait dû suffire à lui retirer l'envie de toucher à cet objet. Mais cet entêté fit semblant d'être blessé et se plaignit si fort que l'OVNI fut attiré par ses gémissements. Il s'immobilisa au-dessus de sa tête pendant que le chercheur d'or se frottait les genoux. Dès que l'appareil descendit à une hauteur de bras, notre homme l'attrapa en plein vol. Le faux blessé s'éleva rapidement dans les airs en perdant ses bottes pendant l'ascension. Son chien lui jappa froidement. « Ne t'inquiète pas, mon maître, je vais les conserver jusqu'à ton retour. Si tu ne reviens jamais, je vais les offrir à mon futur maître contre un bol de pop-corn au caramel. » Quelle brave bête! Pieds nus et frissonnant terriblement à 1000 mètres au-dessus du sol, le chercheur d'or cherchait à se réchauffer les orteils en les agitant comme un pianiste qui veut se délier les doigts. Bientôt, ceux-ci frôlèrent dangereusement la cime des montagnes. Il n'était pas eu question de lâcher prise à cette hauteur, à moins de sauter dans une rivière. À défaut d'une rivière, notre ami était prêt à se laisser tomber dans un lac. À bien y penser, il prendrait la chance de sauter dans une piscine, ou même dans un verre d'eau. Il volait à présent au sommet d'une chaîne de montagnes et il osait s'imaginer ce qui arriverait s'il chutait dans l'un des nombreux ravins escarpés. Il préféra adresser cette courte prière au bon Dieu. « Mon Dieu, si tu es également le grand patron des extraterrestres, ordonne à cet objet de me déposer immédiatement. » Le Tout-Puissant devait avoir mal compris son message, puisque le petit vaisseau s'amusa à poursuivre sa route en longeant des crevasses, des pics et des terrains accidentés. Péchel n'était plus certain de pouvoir tenir cet objet de malheur. Il sentait ses forces diminuer et ses doigts se dénouèrent les uns après les autres. Tout lui parut sans espoir et ferma les yeux pour attendre la mort. Il ne fallait surtout pas lui en demander trop après tout. Cette mort, rares sont ceux qui osent la regarder en face. On baisse les yeux ou bien il faut faire semblant de ne pas la voir lorsqu'il vient nous chercher. Lorsque son dernier doigt lâcha prise, le pauvre homme, sans elle, chuta dans le vide. Il faut dire que Péchel se trouvait en réalité à quelques centimètres du sol doux et sablonneux. Ses pieds nus s'y enfoncèrent légèrement sans plus. Le chercheur d'or n'y comprenait rien. Il s'attendait à se briser les os d'un instant à l'autre. Il n'osait ouvrir les yeux et cela devenait plus angoissant que de savoir ce qui se passait exactement. Il avait l'air vraiment niais, immobile, comme une statue, et la figure encore toute crispée. Puisque le moment de l'impact n'arrivait pas, il ouvrit prudemment un œil pour voir la moitié de cette jolie plage sur laquelle il venait d'atterrir. Puis, lorsqu'il se décida à ouvrir l'autre œil, il vit l'autre moitié de cette île et la mer. La boîte lumineuse s'était posée au sommet d'une petite colline arrondie. Le naufragé s'en approcha, mais le sol se mit à trembler. Notre homme tomba face contre terre et du sable pénétra dans sa bouche et ses narines. La secousse devint si violente qu'il aurait fallu un bâton dynamite pour lui dégager la face du sol. La colline se fendit en deux et en sortit un autre vaisseau spatial de la taille d'une grosse valise. Il émettait des sons tellement mystérieux qu'ils provoquaient un véritable tumulte à la surface de l'eau. Des vagues énormes roulèrent sur la plage pour ensuite s'abattre sur le pauvre homme déjà étouffé par le sable. L'eau le fouetta par saccades régulières jusqu'au moment où cet engin de l'espace s'éloigna de la colline. Puis, tout redevint calme et même trop tranquille, se disait Péchel, en se redressant sur ses mains. Il n'osait se relever avant d'être convaincu que tout danger était écarté. Des oiseaux chantaient. Était-ce de bon augure, semblait se demander le naufragé en songeant à d'éventuels oiseaux de malheur. L'un d'eux en laissa la preuve sur son crâne presque chauve. Maudite merde, ragea notre homme, victime en regardant une nuée de goélands dans ce ciel bleu. Tu ne devrais pas maudire ces jolis oiseaux blancs qui doivent faire leurs besoins comme tous les autres, lui répondit sa conscience. On doit savoir que Péchel entendait souvent des voix intérieures qui se faisaient passer pour sa conscience. En réalité, les grands maîtres de l'invisible le guidaient dans ses missions à travers le temps. Il va sans dire que notre homme ne savait jamais où ceux-ci désiraient lui voir accomplir celle-ci, et encore moins en quoi elle consistait exactement. Dans le cas présent, ses maîtres voulaient qu'il aide des extraterrestres à s'en retourner sur la planète Mercure. Le missionnaire vit de nouveau le petit vaisseau argenté s'immobiliser au-dessus de sa tête. Cette fois-ci, notre homme n'éprouva aucune envie de s'en saisir. Il se contenta de le fixer craintivement, surtout lorsque celui-ci descendit lentement pour venir se placer en face de son visage. Au même instant, l'autre vaisseau spatial passa silencieusement au-dessus de l'île avant de plonger dans l'eau. On aurait dit une étoile de mer géante, transportant une sorte de bouclier rouge-feu entre ses cinq pointes. Le naufragé le vit s'enfoncer un court moment, puisque le petit objet, encore devant sa figure étonnée, l'aveuglait pour le punir de sa curiosité. L'effet fut radical, comme si un flash de caméra vous troublait la vision pour un certain temps. L'effet disparut au coucher du soleil. Les deux vaisseaux n'étaient plus là, et la solitude devint la seule compagne du pauvre naufragé. Péchel erra sur son île déserte comme une âme en peine. Il en fit plusieurs fois le tour en tentant de fuir la faim qui le tiraillait tellement qu'il en vint à manger les rares touffes d'herbe qui poussaient maigrement autour du seul arbre de son nouveau royaume. Il finit par s'asseoir sur celui-ci en murmurant ces quelques vers improvisés pour les circonstances. « Je suis un homme trop bête pour être heureux. Pourquoi fallait-il m'accrocher à cet objet dangereux? Alors que mon compagnon trouvait son bonheur à chasser les mouches pendant des heures. Suis-je donc trop curieux de nature pour me contenter de vivre mes aventures, sans chercher de telles mésaventures qui m'obligent à manger de la verdure? » La nuit était étoilée, et le clair de lune jetait un peu de clarté sur le sable nocturne. Sur la mer obscure, on pouvait voir des écailles lumineuses danser sur les vagues avant de mourir sur la grève. Péchel s'endormit en rêvant à une orgie de nourriture sur une table immense. Au petit jour, il s'éveilla en grelottant terriblement. La seule façon qu'il trouva pour se réchauffer les pieds fut de les enterrer dans le sable. Tout à coup, il sentit quelque chose en bougeant ses orteils. Il s'empressa de retirer ses pieds du sable pour fouiller nerveusement dans celui-ci. Il trouva un livre en cuir fort étrange. Il est évident que notre homme aurait souhaité trouver une noix de coco, mais ce livre était tout de même quelque chose qu'il pourrait bouffer en attendant de trouver mieux. Il se mit à mordre dans la couverture rouge incrustée d'une jolie étoile de Salomon. Puisque Péchel ne savait ni lire ni écrire, ce volume ancien pouvait le nourrir temporairement. Il mordit fortement en cherchant à déchirer un coin du cuir. Alors une voix mystérieuse lui dit: « Pauvre misérable, comment oses-tu mordiller un livre caché là par les Elohim? » Sacré nom d'un chien, gémit l'homme sans attendre. « Je suis tellement affamé que j'entends les voix d'anges. » Il tenta d'enfoncer ses dents dans la couverture et la voix lui cria aussitôt: « Avez-vous déjà vu une tête de cochon comme la sienne, votre majesté? Oh là, l'ami cesse de t'attaquer à notre clé magique. » « Ça, une clé? » demanda l'affamé sans attendre. « Il se peut que je sois en train de rêver après tout. D'accord pour la clé, si cela peut te rassurer, bonne conscience. Ce livre est une clé, et moi je suis la serrure par laquelle elle entrera dans mon estomac. » Il examina le livre épais en se disant d'une voix attristée: « Si au moins tu étais une tranche de pain, nous pourrions nous entendre à merveille. » « Ouvre ce livre en son milieu, » lui dit la voix inconnue. L'homme se pinça d'abord les joues pour être certain de ne pas rêver, et ouvrit ensuite le volume d'un air hésitant. Une petite clé en or véritable tomba. Intrigué par sa découverte, le chercheur secoua plusieurs fois le livre dans l'espoir de voir d'autres objets en tomber. Il se résigna ensuite à admettre que cette clé était la seule qu'il trouverait dans ce manuscrit. Il feuilleta les pages en se disant nerveusement: « Si cette clé est celle d'un coffre à trésors, je devrais normalement trouver une carte pour m'indiquer son emplacement. » « Pauvre ambitieux, » lui dit la voix mystérieuse en réalisant que l'affamé risquait de mourir de faim avant même de pouvoir découvrir un trésor. En effet, à quoi lui servirait de trouver un coffre rempli d'or s'il allait devoir terminer ses jours sur une île déserte? Une carte se trouvait dans ce livre et montrait par un gros X l'emplacement exact du trésor. Celui-ci était d'ailleurs marqué en face de cet arbre unique. Péchiel creusa rapidement et dégagea une boîte rectangulaire de couleur argentée. Il la sortit du trou pour ensuite la secouer afin d'écouter le son qu'il produisait à l'intérieur. Il fut drôlement déçu lorsqu'il n'entendit rien du tout. Ce coffret était peut-être vide après tout. Il le déposa sur le sable et tenta ensuite d'introduire sa clé dans la petite serrure dorée. Puis, pouf! Croyez-le ou non, Péchiel se retrouva aussi petit qu'une punaise. Il se tenait devant une immense porte dont la forme lui rappelait une serrure. Lorsqu'il vit la clé gigantesque qui gisait près du coffret, il réalisa qu'elle faisait 10 fois sa taille. Comment aurait-il pu douter à présent que sa métamorphose lui permettait de s'introduire dans cette boîte sans utiliser cette clé d'or? C'était tout de même inquiétant de se savoir aussi minuscule et fragile. Sa curiosité naturelle le poussa à s'introduire la tête dans la serrure, et ce qu'il vit alors le fascina. Cette porte donnait accès à un magnifique palais inconnu. Il y avait des grains de sable éparpillés sur le plancher luisant, et qui paraissaient aussi énormes que des cailloux pour notre homme. Il ne vit aucun meuble, et encore moins de trésors dans cette vaste salle, ressemblant à un amphithéâtre. Une échelle se dressait au milieu de la pièce, et ses derniers barreaux disparaissaient dans une voûte arrondie. Péchiel se frotta les yeux, puisqu'il éprouvait de la difficulté à fixer cette longue échelle blanche. Une forte odeur de sel lui brûla d'ailleurs les paupières. Alors qu'il explorait timidement l'entrée du palais, un gros lézard s'approcha de la boîte en sortant sa lancette. Il voulait gober cette petite mouche humaine, mais le chercheur d'or lui échappa en se cachant à l'intérieur du palais. Il trouva refuge derrière l'échelle en sel véritable. La bête, qui paraissait aussi grosse qu'un dinosaure aux yeux de Péchiel, s'introduisit la lancette dans la serrure. Lorsque sa langue rugueuse se frotta sur l'échelle, elle se mit à la lécher avidement à cause de sa saveur salée. Le pauvre homme avait si faim qu'il imita le lézard en croquant dans un barreau. « Si les élus sont tous comme celui-ci, votre majesté, je la plains de devoir se fier à un tel sot, » dit une voix mécontente. « Comment ose-t-il s'en prendre à notre échelle de secours, celui-là? Arrête tout de suite ce ravage, sans quoi ce sel t'obligera à boire toute la mer avant d'étancher ta soif. » « Qui es-tu pour te moquer d'un pauvre homme affamé? » demanda Péchiel en gémissant. « Tu n'as donc aucune idée de ce mal qui ronge celui qui n'a rien à se mettre sous la dent? » « Que me veux-tu enfin, mauvaise voix? Je sais bien que je n'aurais pas dû attraper cette boîte de sardines, sacré nom d'un chien, mais est-ce une raison pour me faire des misères? » « Votre majesté, » reprit la voix qui résonnait dans la salle vide, « cet homme parle de la faim. Est-ce un mal ou une maladie? Pourquoi désigne-t-il notre vaisseau éclaireur par « boîte à sardines »? Enfin, de quel sacré chien parle-t-il au juste? Est-ce d'Herbès, de Sirius, de Corassin, de Corassan ou de la chienne d'Arménie? Je ne trouve aucun mot sardine également dans notre dictionnaire. Cet homme a souffert à cause de nous, dit une voix très douce et amicale. J'aimerais le rencontrer puisqu'il est ce missionnaire que j'avais demandé pour nous aider. L'autre voix, obéissant à sa reine, demanda à Péchiel de gravir l'échelle. « Je le voudrais bien, mais ce monstre cherche à m'avaler depuis tantôt, j'ai mis le naufragé. »« Il est plus intéressé par notre sel que par de la chair humaine, » se contenta de répondre froidement celle-ci. « Monte cette échelle et tu sauras très vite pourquoi nous t'avons conduit ici. »« Tu devras ouvrir la trappe de la voûte sans la toucher de tes doigts, sinon, gare à toi. »« Cette porte s'ouvrira d'elle-même lorsque tu auras prononcé les mots suivants. » « Ouvre-toi vers le voûte, ouvre-toi vers le haut, ouvert, vers le vert, vers l'univers. » Péchiel suivit les instructions à la lettre et se retrouva dans la cabine de pilotage. La plupart des gens associent les extraterrestres à des petits bonhommes verts, ou pire encore, à des plantes et des reptiles monstrueux. Le missionnaire était un vieux loup de voyage dans le temps et en avait vu de toutes les couleurs au cours de ses aventures. Il ne fut nullement étonné de se trouver dans une salle circulaire où des êtres étranges prenaient place dans 5 bassins remplis d'eau. Son regard se porta aussitôt vers ces genres de gros œufs vitrés et transparents, dans lesquels se trouvaient des tubes lumineux. Dans l'un d'eux, il vit 3 néons scintiller à tour de rôle, comme s'ils communiquaient entre eux. La coquille dans laquelle il prenait place était brisée en deux, et un liquide remplissait le fond du bassin. Péchel apprit qu'il se trouvait devant une reine et ses 2 valets, lorsque la voix mystérieuse de son cœur lui dit ainsi, « Regarde dans quel état sont devenus la reine et ses 2 valets de la planète Mercure. Ils ont besoin de ton aide. » Des sons harmonieux se firent entendre de ces 3 tubes phosphorescents. Celui qui se trouvait au centre passait du rouge au blanc. Le néon de gauche jouait entre le noir et le blanc, alors que celui de droite changeait du bleu au vert. Le tube de gauche cracha d'abord un jet noir dans le bassin, avant de s'adresser aux visiteurs en disant, « Nous sommes venus de très loin afin d'enseigner nos sciences aux humains. Nous avons vite réalisé qu'ils sont incapables de comprendre notre langue de Mercure. C'est le nom que vous donnez à notre planète. Comme tu peux le constater, nos traits physiques sont bien différents des terriens. C'est sans doute pour cette raison que nous sommes incapables de vivre dans votre monde. Nous vivons vraiment à l'extrémité de 2 pôles qui n'auraient jamais dû se toucher. Notre science, nos lois et nos valeurs sont incompatibles avec les vôtres. » Péchel écouta craintivement ce tube noir avant d'entendre les néons verts prendre la parole à son tour. « Nous aimerions retourner sur notre planète. Nous l'aurions fait il y a des centaines d'années de cela, mais un grave problème technique provoqua la séparation de nos 3 énergies. À moins d'être réunis de nouveau, notre vaisseau ne pourra jamais s'élever plus haut que les nuages de la Terre. Nous savons que tu peux nous aider, dit le tube central. Des aides de l'invisible nous ont parlé d'un homme assez fou pour relever le défi d'une telle mission. Dans notre langue, le mot « fou » est utilisé pour désigner les missionnaires des causes insensées. Si tu es Fontaine de Nord Péchel, nous te demandons de nous aider au nom de tes maîtres de l'invisible. « Je ne peux refuser de vous aider, » s'exclama l'homme d'une voix rassurée. « C'est toutefois la première fois de ma longue vie qu'on me demande de l'aide au nom de mes maîtres de l'invisible. Pouvez-vous me donner leur nom? » « Nous savons qu'ils sont vos guides depuis des milliers d'années, » lui répondit le tube blanc. « Ils veillent sur vous et sur plusieurs habitants d'une ancienne planète, disparue depuis environ 15 000 ans. Selon nos informations, elle portait le nom d'Arcara. En ce qui concerne ces maîtres invisibles, ceux-ci ne m'autorisent qu'à les désigner autrement que par le zélo, zélaire et zèle-feu. » Zèle, questionna l'homme d'un air confus. « Vraiment, je ne me souviens pas d'avoir entendu ce nom auparavant. Êtes-vous certain du nom? » « Oui, notre mémoire est infaillible, » lui répondit le tube noir. « Ce mot signifie simplement « accompagnateur ». Ces maîtres vous demandent de nous aider avant que notre énergie s'épuise mortellement. « Eh bien, je suis à votre disposition, » répondit notre homme en souriant. « Je n'ai pas de carte d'affaires, mais à l'appel de Péchel. Viens, Péchel, surtout pour secourir de jolies demoiselles. » Les 3 tubes se consultèrent un court moment en s'échangeant des signaux, puis le tube noir cracha de nouveau dans le bassin avant de dire, « Nous comprenons ce que signifie le mot « fin ». Nous l'avons finalement découvert en analysant ta structure biologique. Il te faut de la nourriture, n'est-ce pas? « Oh oui, beaucoup de nourriture et quelques gallons de vin pour étancher ma soif, » s'empressa de répondre l'affamé. Les extraterrestres échangèrent leurs couleurs et firent apparaître une botte de foin devant le missionnaire étonné. « Je regrette, mais je ne suis pas une vache pour manger du foin, » s'exclama-t-il sans attendre. « Nous avons pourtant regardé dans notre bibliothèque mercurienne, et c'est bien indiqué qu'il s'agit d'une nourriture. « Oui, mais pour un animal qu'on appelle vache, et qui donne ensuite du lait lorsqu'on maltraite ses pies. » Ayant parfaitement réalisé leur erreur, ces êtres mystérieux pouvaient faire apparaître n'importe quoi, à la condition que l'on spécifie ce que l'on veut. Péchel parvint à obtenir 4 gros sandwichs et 2 litres de vin rouge. Il va sans dire qu'il aurait commandé des mets exquis s'il s'était trouvé en compagnie d'une dame. Puisqu'il était seul, il se contenta d'une bonne bourre plutôt qu'une bonne bouffe. D'ailleurs, tout le monde sait très bien qu'on ne demande pas à un affamé de faire la différence entre une olive ordinaire et celle qui est farcie. Il gobe tout, même les noyaux. Lorsqu'ils furent assasiés, le chercheur d'or vint se placer devant les trois tubes, pendant qu'il se communiquait d'autres messages. Puis un néon lui dit, juste après l'avoir entendu roter, « Que signifie ce mot « Burke »?»« Cela signifie satisfaction dans la langue de celui qui a bien mangé, s'empressa de répondre irréellement Péchel. » Nous allons l'inclure dans notre vocabulaire dès que nous serons de retour sur Mercure, lui dit le tube jaune. Nous espérons vivement y retourner grâce à ton aide. Nous sommes même disposés à t'offrir tant d'or que personne sur Terre n'en possédera autant. C'est bien de l'or que tu cherchais dans cette rivière, n'est-ce pas? Oh oui, de l'or. Ah, mais vous venez de me prendre par les sentiments en m'offrant de l'or pour mes services. Je me sens prêt à faire l'impossible pour vous retourner sur Mercure. C'est justement l'impossible que nous te demandons, lui répondit le néon rouge. Si tu peux me regarder, me transformer, s'enfaiblir de désir, je t'accompagnerai au laboratoire de notre vaisseau pour t'enseigner comment manipuler nos énergies. Il faut être deux pour ce travail de précision, et malheureusement pour moi, je suis la seule à pouvoir me métamorphoser en humaine, sans quoi j'aurais demandé à mes deux valets de m'assister pour cette opération scientifique. Tout ce que tu auras à faire, c'est de tenir la vase transparente dans laquelle je verserai un puissant agent coagulateur. Ah bon? C'est une sorte de sirop pour recoller vos trois énergies, demanda candidement Péchel. Pas du tout, répondit la reine sans hésiter. Ce coagulateur est un sel mercuriel qui refera notre tissu comme c'est le cas pour votre peau. La nôtre contient notre énergie vitale. En la refaisant, nous pourrons guérir rapidement nos blessures. Ainsi, je n'aurai qu'à tenir un vase pour obtenir beaucoup d'or. C'est un jeu d'enfant que vous me demandez là. Le chercheur d'or souriait à l'idée de faire fortune aussi facilement. Le tube rouge se mit à vibrer délicieusement, au point tel que les oreilles de l'homme en furent charmées. Mais il n'avait encore rien vu, le pauvre. Le néon se transforma en une fort jolie femme au regard envoûteur. Le mot est faible pour décrire la beauté de la reine de Mercure. Péchel sentit ses genoux fléchir et des frissons étranges parcouraient son système nerveux comme si la foudre venait de le frapper jusqu'au bout des orteils. Il fut incapable de tendre sa main à celle qui l'invitait à s'approcher de la porte conduisant au laboratoire. Notre homme avait l'impression d'avoir les pieds coulés dans du béton et d'être enchaîné par le dieu de l'amour. On aurait dit que les charmes dégagés par la reine faisaient fondre la volonté du pauvre missionnaire. Il la regardait tel un enfant émerveillé par la pureté de son regard. Ce n'était pas ce qu'elle s'attendait de lui et s'empressa de retourner à son état primitif. Le tube rouge soupira avant de s'exclamer tristement. « Je suis triste de vous savoir si passionné. »« Oh, belle dame, au regard merveilleux, j'ai mis le pauvre amoureux. Ayez pitié de ma pauvreté d'âme. Comment puis-je vous venir en aide à présent que j'ai failli à ma mission ?» Péchel parlait avec sincérité. Il réalisait que son impuissance à tenir la main de la reine de Mercure pouvait la condamner à demeurer éternellement sur Terre. Le tube rouge s'illumina de nouveau avant de devenir d'un blanc laiteux. « Il existe une autre voie possible à notre libération, » lui dit la reine déçue. « Elle est toutefois périlleuse et plus difficile à parcourir. S'il s'agit d'un moyen qui soit humainement réalisable, je suis disposé à m'engager dans cette voie, » lui répondit l'homme en la suppliant des yeux. « Je sais que tu feras tout pour vaincre les épreuves qui t'attendent, » lui fit savoir la reine d'une voix attendrie. « Pourtant, » il serait plus sage de connaître notre mésaventure avant de rechercher les trois perles qui sauront nous réunir dans un seul pouvoir. Il y a des milliers d'années de cela, nous avions inventé un télescope si puissant qu'il nous permettait de voir votre planète. Nous recherchions depuis longtemps le monde des humains, puisqu'on en disait beaucoup de bien à l'époque parmi nos savants et nos sages. Nous tenions énormément à vous rencontrer et surtout visiter votre terre, à cause de l'eau qui en recouvre une grande superficie. Nous en avions jamais vu, tu sais. Vous ne buvez donc jamais d'eau sur Mercure, demanda Péchel, pour en savoir davantage sur cette planète. Nous sommes des créatures, les Grecs, qui est des noms des êtres de chair comme vous, se contenta de répondre la reine. Nous voulions par conséquent comprendre l'anatomie humanoïde. Voilà pourquoi j'ai tenu personnellement à faire partie de cette première expédition sur Terre. Nos astrophysiciens ne pouvaient s'imaginer que ce voyage présenterait le moindre danger pour leur reine et ses deux valets. En réalité, voir une planète à travers une lunette et y vivre sont deux choses que nous avons vite appris à nos dépens lorsque nous avons traversé votre atmosphère. Notre vaisseau plana un court moment au-dessus des nuages avant d'éprouver des ennuis mécaniques. Tous nos instruments de bord firent défaut en même temps dès que notre navire fut en contact avec l'air terrestre. Il était trop tard pour remonter dans l'espace. Nous avons chuté dans la mer Noire. Vous êtes arrivé sur Terre dans la petite boîte de sardines, demanda le chercheur d'or. Pas du tout, Pêchel, s'empressa de lui répondre le tube royal. Je pense que tu veux parler du navire qui t'a transporté sur cette île, n'est-ce pas? Je me demande si je voyagerai de nouveau sous cette canne volante, se contenta de lui répondre le pauvre voyageur. Tu as été transporté ici par notre vaisseau éclaireur que nous appelons l'Hermoplane. Notre navire principal possède la forme d'une étoile de mer. Mon palais se trouvait au centre des cinq pointes du navire, mais s'y détacha au contact de l'air terrestre pour ensuite sombrer au fond de la mer. L'habitacle de verre dans lequel je prenais place avec mes deux serviteurs se gonfla par la pression d'eau et se brisa en deux. Ce globe contenait mon sang mercuriel et constituait mon enveloppe protectrice. Tout ce qui me reste de ma vitalité se trouve au fond de ce bassin, dans lequel nous tentons de survivre. Mes valets sortirent du verre pour tenter de le réparer rapidement. En se séparant de moi, ils perdirent tant d'énergie que j'ai ordonné leur retour immédiat dans le bassin, où mon sang pouvait les sauver. Avant notre séparation, nous possédions la teinte dorée du soleil. Regarde ce qui reste de nous à présent. L'un de mes valets est si noir et terne que je me demande s'il pourra survivre encore bien longtemps. Mon sage conseiller crache du sang et l'autre, je peux deviner qu'il perd ses couleurs rapidement. Larga et mon sage conseiller vont mourir si tu ne peux nous aider. Votre navire étoile ne pouvait vous récupérer, Votre Majesté? Demanda le missionnaire. Oh, il a tenté de le faire dès que mon palais sombra au fond de la mer, lui répondit-elle. Il demeura coincé entre deux pierres. Pour le dégager, il aurait fallu mes pouvoirs. Malheureusement, mes trois perles magiques qui me servaient à accomplir des prodiges furent avalées par des poissons monstrueux. Je portais à l'époque un collier unique dans l'univers, tu sais. Il était composé de sept pierres fabuleuses qui me furent offertes par de puissants souverains qui gouvernent le mouvement des sept planètes de la Voie lactée. Les trois perles précieuses étaient celles de Mars, Vénus et Saturne. Elles se trouvaient sur mon collier d'or, parmi les rares pierres de la Lune, de Jupiter, de Mercure et même de votre Terre. Si j'avais encore ces trois perles magiques, je pourrais réunir nos pouvoirs grâce aux puissances de Mars, Saturne et Vénus. Ces perles ont été gobées par trois gros poissons qui s'étaient introduits dans mon palais lorsqu'ils se trouvaient encore sous la mer. Pour les empêcher de nous attaquer, j'ai défait mon collier brillant avant de les lancer sur nos agresseurs affamés. Ceux-ci étaient surtout attirés par la couleur rouge de la perle de Vénus, la noire de Saturne et la blanche de Mars. Cette dernière devenait même rouge lorsqu'on la plaçait devant la pierre de Lune. Ces trois perles sont plus précieuses que les autres pierres de votre collier, demanda le chercheur d'or. Oh, si précieuses, lui répondit la reine d'une voix émue, que c'est grâce à leur pouvoir si nous pouvons voyager partout dans l'univers. Sans mes trois perles, notre science dépasserait à peine celle des terriens. Si tu peux me les rapporter, tu auras sauvé la vie de mes serviteurs et la mienne. Mes techniciens sont parvenus à sortir mon palais de la mer et à le cacher sous le sable de cette île en attendant un sauveur. Tu es peut-être cet homme après tout. Si Dieu le veut, je vous délivrerai en vous rapportant vos trois perles précieuses. Je n'aurai besoin que d'une bonne ligne à pêche ou d'un filet. Une ligne? Oh non, ce n'est pas ainsi que tu pourras récupérer mes perles, mon pauvre Pêchel, lui fit savoir la reine d'une voix charmante. Ces monstres sont trop rusés pour se laisser prendre par des outils conventionnels. Il va falloir les attirer individuellement et leur faire cracher ce qu'ils m'ont volé. L'hermoplane va forcer le premier poisson à venir s'échoir sur la plage. S'il est facile d'amener cette grosse raie devant toi, il le sera moins de lui faire cracher la perle de Saturne. Je laisse le soin à mon sage conseiller de t'expliquer comment tu devras t'y prendre avec ce poisson orgueilleux et vaniteux. Ouvre bien tes oreilles pour ne rien oublier dans ses propos. Notre reine m'a confié la tâche de trouver une bonne stratégie pour récupérer la perle saturnienne, dit froidement le tube noir en crachant dans le bassin. Je pense avoir trouvé la solution. Elle présente des risques pour toi, mais t'assurera la victoire si tu fais exactement ce que je vais te dire. Lorsque la raie viendra s'échouer sur la grève, elle nagera en rond dans une mare d'eau. Elle attendra simplement la marée haute pour s'en retourner à la mer, et c'est là que tu devras intervenir avant qu'elle y parvienne. Pour l'obliger à sortir de son élément naturel, je te conseille fortement de conserver ta taille minuscule en t'approchant de ce monstre extrêmement dangereux. Sa queue est munie d'un dard mortel et ses dents pourraient te couper en deux sans difficulté. Si tu t'approches d'elle en conservant ta taille normale, cette raie effrayée voudra s'échapper en demeurant au fond de sa mare. Puis, même si tu cherches à la saisir pour la forcer à cracher cette perle, tu ne réussiras qu'à la tuer. Si tu fais cela, cette perle noire perdra aussitôt ses pouvoirs. On n'a pas le droit de tuer un autre pour lui voler son trésor. Si tu blesses ce poisson, il ne voudra jamais cracher ce qu'il conserve jalousement. Il faut que cette raie accepte d'elle-même de se débarrasser de cette perle. Quitte à me laisser dévorer si ce gros poisson me prend pour une punaise, demanda craintivement le chercheur d'or. Un poisson est habile dans son élément naturel et devient vulnérable sur le sable, lui répondit le sage conseiller. Tu devras donc attirer cette raie sur le sable en la confrontant. Elle est si orgueilleuse qu'elle risera trop tard son imprudence. Pour l'attirer hors de la mare, commence par lui dire qu'elle est très laide, sale et commune. Elle s'en défendra en prétendant être unique à cause de la perle magique qu'elle possède dans son ventre. Riposte aussitôt en lui disant qu'elle est vraiment trop grosse pour s'introduire dans le palais de la reine de Mercure. La reine insultée te répondra sûrement qu'elle a simplement avalé le poisson qui tenait cette perle dans sa gueule. Poursuis tes attaques en la traitant de menteuse. La prétentieuse va perdre patience et s'agiter bruyamment dans l'eau de son bassin. Menace ce monstre de le lapider pour t'avoir raconté des mensonges. Recule lentement, en continuant ton manège. Aveuglé par la colère, la raie cherchera à te dévorer. Pour la forcer à t'attaquer hors de l'eau, dis-lui qu'elle est trop lâche pour venger son honneur. Je te conseille de courir très vite, dès qu'elle s'élancera à ta poursuite. Si je comprends bien, lui dit le missionnaire, je vais devoir servir d'appât. Pas pour bien longtemps. Un poisson nage très mal hors de l'eau, et le sable va absorber ses branchies, lui répondit le conseiller. La raie te demandera un peu d'eau pour respirer, et tu n'auras plus qu'à négocier celle-ci contre la perle. Le monstre acceptera de cracher sa pierre devant toi. Ensuite, tu devras prononcer ces mots magiques pour reprendre ta taille normale. Souviens-toi de cette formule. Anolac abulo, abulo lolo. Oh, c'est vraiment simple comme formule, s'exclama l'homme en souriant. Que dois-je faire ensuite? Tu devras ramener ce poisson sur le bord de l'eau afin qu'il puisse retourner dans son élément naturel. Et pour les deux autres perles, comment devrais-je m'y prendre? Commence par obtenir cette première perle et nous veillerons ensuite à te communiquer la suite de ta mission en temps et lieu, lui répondit la reine de Mercure. Péchel descendit l'échelle en se disant que cette mission ne devait pas être trop difficile. Il se fit aussitôt saisir par une jambe par une langue rugueuse. Le gros lézard était toujours là et cherchait à varier son menu. Notre homme s'accrocha solidement pour ensuite défaire un barreau de l'échelle qu'il frotta sur la langue. L'animal le lâcha afin de lécher son morceau de sel. Cela donna une idée au chercheur d'or, qui savait trouver rapidement des solutions à chaque situation inusitée. Il se cacha derrière l'échelle et attendit que le monstre se décide à introduire sa lancette dans l'espace réservé au barreau manquant. Il taquina cette langue pour l'attirer à travers l'échelle et replaça rapidement le bâton salé en pour enfermer cette longue lancette dans son étau. Pêcheur en profita pour se faufiler dans la serrure et prit même le temps de taper amicalement le museau de la bête en disant ironiquement « Je pense que tu as introduit ta langue dans une serrure interdite, mon gros dragon de mon cœur. À présent, tu devras attendre que ce sel soit fondu avant de pouvoir retirer ta lancette de là. » Le chercheur d'or s'éloigna en sifflant l'air de « Roule, roule, ma boule, ma boule » et arriva bientôt sur le bord de la mer. Elle paraissait encore plus vaste et les grains de sable ressemblaient à des grosses pierres. Notre homme aurait bien aimé reprendre sa taille normale en attendant l'arrivée de l'arrêt, mais préféra s'en tenir aux instructions du sage conseiller. Il vit son arbre de la taille d'un gratte-ciel et faillit se faire écraser par une feuille qui roula sur lui. C'était vraiment étrange de voir les choses comme une punaise. Un peu plus loin, il traversa plusieurs ravins pour se rendre sur la plage. Il réalisa qu'il venait de marcher dans ses propres traces de pieds, laissées dans ce trou mou. Les vagues gigantesques venaient s'étendre sur la grève en émettant des sons caverneux. Même le cri des mouettes était horrifiant à entendre. Pêchel se sentait si fragile qu'il n'osait s'imaginer ce qui arriverait si une simple araignée venait l'attaquer par surprise. La simple brise devenait son ennemi. De plus en plus montait en lui cette impression d'impuissance lorsqu'on est un des êtres les plus petits de cette île immense. Soudain, le ciel s'obscurcit par le passage d'un genre de cerf-volant de couleur noire. Il s'écrasa dans une mare d'eau située à quelques 10 mètres seulement de notre homme. Il réalisa très vite que cet étrange objet était cet trait énorme, qu'une grosse vague avait projeté dans les airs avec fracas. Comme l'avait prédit le sage conseiller, ce poisson vaniteux finit par cracher la perle noire, et Pêchel prononça la formule magique pour reprendre sa taille normale. Il ramena l'arrêt vers le rivage et fouilla ensuite dans sa poche de chemise pour se saisir de cette pierre étrange. Alors qu'il l'examinait d'un air intéressé, une voix intérieure lui dit sans tarder « Tu devrais ramener cette pierre noire à la reine de Mercure pour qu'elle t'indique la suite de ta mission. » « Si je la rapporte bonne conscience, crois-tu que la reine acceptera de se transformer de nouveau devant moi pour que je lui dépose celle-ci dans sa main? » « Et le voilà de nouveau en amour, » s'exclama la voix inconnue. « Dis-moi la vérité, tu voudrais la revoir en chair et en os, n'est-ce pas? »« Oh, je le souhaite de tout mon cœur, » lui répondit le chercheur d'or. « Je ne voudrais pas te décevoir, ce n'est te décevoir. » Mais ce que tu as vu, c'est une projection de ton mental, et non le véritable visage d'une reine merveilleusement belle. Elle n'était pas réelle. Tu as cru voir la plus belle reine qui soit grâce au pouvoir des trois tubes qui ont fouillé dans tes souvenirs pour te ramener l'image de celle qui fut ton épouse sur ton ancienne planète. Dois-je te rappeler que tu vivais jadis sur Arcara avant de t'incarner sur Terre, mon ami? Oh, parfois je suis convaincu d'avoir vécu sur cette planète, et ensuite, ces souvenirs s'effacent, et je ne suis plus sûr de rien. Peux-tu me dire le nom de mon épouse? Est-ce que le prénom de Rosia te rappelle quelque chose? Rosia? Oui, je vois la reine de Mercure, ou plutôt, je réalise que c'est elle que je prenais pour mon ancienne épouse sur Arcara. Oui, Rosia était très belle, en effet. À présent que je viens de te révéler le nom de celle qui était ta compagne sur ton ancienne planète, va porter cette perle avant de la perdre. Oui, je ne voudrais surtout pas que la reine de Mercure s'inquiète à mon sujet. Mais si tu sais tellement de choses, peux-tu me révéler la suite de ma mission? C'est inutile de te prédire la suite des événements. Va remettre cette pierre et tu verras bien.